Vous avez donc à la page 400, le premier paragraphe que nous avons vu hier, le premier interlocuteur, d'après la définition de la formule, d'après la. Et nous avons aussi donc que cette thèse, c'est d'essayer de faire admettre. Donc, au Sadducéen, qu'il y a au moins un cas exceptionnel, un cas particulier exceptionnel, où inévitablement le Sadducéen qui admet le texte chat de la Torah devrait admettre cette implication exégétique de Triadamétim d'après la littéralité de la Torah, c'est le cas du Kohen, en élargissant le cas du Kohen Gadol, le cas de Aaron à Kohen, en élargissant la thèse, c'est-à-dire en tant que quoi l'homme est donné à la résurrection des morts, c'est-à-dire donc à la signification de sa destinée individuelle, en tant que Kohen. Mais nous avons vu aussi que, par définition, c'est bien cette thèse que les Sadducéens refusent, puisqu'ils ne considèrent pas du tout que la Torah est un sens religieux. Je vous ouvrirai, mais là, simplement, un sens de constitution sociologique. Tout le monde a suivi déjà toutes les analyses. Je vais simplement vous signaler que j'ai eu hier soir entre les mains le dernier livre de M. Neher, Très de Bolivie, je ne sais pas si vous le connaissez, et j'ai retrouvé en le feuilletant une citation qu'il a donnée sur deux pages, précisément de la doctrine de Mendelssohn, que je vous avais citée il y a deux jours, vous pouvez vous y référer. Il est bien évident que cette tendance sadducéenne a ressurgi avec cette doctrine mendelssohnienne, qu'il ne s'agit absolument pas dans la Torah d'une révélation de portée du salut religieux, mais d'une constitution pour la société, la meilleure des sociétés, la meilleure des constitutions, etc., comme nous l'avons vu précédemment. J'ai marqué une certaine correspondance, je ne sais pas si c'est dans l'air, entre des citations que j'ai faites donc hier soir, et puis énormément de choses qui avaient été citées. Vous avez remarqué ça?
Oui.
Bien. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Alors, revenons-nous maintenant à notre texte. Je suppose qu'il y a. Est-ce qu'il y a des questions sur les analyses d'hier? Il vaudrait mieux les débroussailler maintenant.
Donc, on se donne à Aaron à Kohen. C'est à quel moment? C'est dans le chapitre 15 de Bamidbar. 19 de Bamidbar.
Bamidbar, okay.
On sait déjà que Aaron n'entrera pas dans la terre promise.
C'est une bonne question. Ça, je ne peux pas vous répondre tout de suite si on le sait déjà dans l'ordonnance du texte. Mais dans tous les cas, les Sadducéens eux-mêmes reconnaissent que la lettre de la Torah est donnée comme éternelle. Par conséquent, elle a une portée qui doit se réaliser en quelque temps que ce soit. Ça, c'est effectivement une question pour l'exégèse même du texte. Si vous rappelez l'objection de la Gemara elle-même, Vechi Aaron Kohen et Aolam Kayam, Vaalo, l'onichnas, Apilou l'onichnas l'Eretz Israël. Ça veut dire, vous vous rappelez dans le texte de la Gemara, est-ce que Aaron est éternel, n'est-ce pas qu'il n'est même pas rentré en Eretz Israël? Eh bien, je crois que je peux vous répondre, oui, puisque c'est déjà au moment de l'épisode des eaux de Mara qu'il est annoncé que ni Moïse ni Aaron n'entreront l'eau qu'il a acheté Metchel. Donc la réponse est aussi. On peut le vérifier dans le texte, mais je pense bien qu'on le sait bien. Je crois que faites bien attention dans ce genre de questions. Si vous permettez de donner une petite parenthèse de méthode, mais elle est assez importante. Vous connaissez le grand principe En Mugdam Umochar Batora. Littéralement, ça veut dire il n'y a pas d'ordre chronologique dans le texte de la Torah. Vous connaissez ce principe. El Mugdam, ou Mugdam, ça veut dire il n'y a pas de Mugdam, quelque chose qui doit être avant ce qui est après, ou Mugdam, quelque chose qui est après ce qui est avant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas de chronologie, si vous voulez, dans l'ordonnance du texte de la Torah. On pourrait parler des heures sur ce principe, mais simplement pour le rattacher un peu à votre question. Dans la Torah, comme contenu de sagesse de ce livre, C'est-à-dire dans la Torah, comme contenu de vérité, il n'y a pas d'ordre chronologique. Parce qu'il n'y a pas d'ordre chronologique au niveau des vérités. À la rigueur, il y a un ordre méthodologique, ou un ordre logique, mais on ne peut pas dire qu'un théorème soit historiquement avant un autre théorème. La vérité est sur un écran d'éternité. Donc, El Mukdam Mukhar, pas Torah. Mais dans le Sefer Torah, il y a Mukdam Mukhar. Ce qu'il faut saisir, c'est la différence entre ces deux expressions, Torah et Sefer Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, mise par écrit, alors elle devient Sefer, là il y a un ordre. Et cet ordre a un sens. Quoi qu'il y ait une discussion dans la Gemara, si on doit admettre Smichut Mina Torah, c'est-à-dire ce qui apparaît de Smichut, la jonction, mais comment dire ? Pas juste la position, puis c'est succession. Ce qui apparaît du fait que ce texte dit ceci avant que le texte suivant dise cela, l'enjambement des deux textes, et très souvent très riche d'enseignements, surtout au niveau de la halakha, au niveau juridique, et une discussion de la Gemara de Yoma, si ça vaut pour les quatre livres ou uniquement pour le cinquième. Mais quoi qu'il en soit, on admet que le fait qu'un texte soit avant une paracha, soit avant une autre paracha, a un sens, le fait qu'il y ait Mukdam Mukhar dans le Sefer Torah. Mais cette formule de la Gemara dit, El Mukdam Mukhar, pas Torah. Est-ce que c'est bien clair? C'est pour le dire un peu autrement. Non, je pense que c'est l'essentiel. C'est-à-dire, au niveau de la Torah comme vérité, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Parce que tout est simultané. Tout est simultanément vrai. S'il y a une vérité, eh bien, elle est toute entière simultanément vraie. On ne peut pas dire ceci est vrai avant cela dans la théologie. Mais dans la révélation de la Torah, c'est-à-dire l'inchronisation, comme dirait d'ailleurs M. Nair, puisque c'est un terme à lui, il n'est pas passé dans la langue française, on se demande pourquoi, mais il devrait. Vous comprenez ce que ça veut dire l'inchronisation, c'est-à-dire le fait d'entrer dans le temps. Et donc, l'écriture de la Torah, il y a un ordre. Ce n'est pas pour rien que la Massora, que la tradition, nous a donné l'ordre des parashiot de cette manière, et non pas d'une autre. Je rattache peut-être rapidement à cette analyse sur ce point. Non, ceci d'abord pour le rattacher à notre question, c'est-à-dire que dans tous les cas, la question se pose.
Le fait de dire qu'il y a un ordre chronologique dans le livre de la Torah ne signifie pas que l'ordre de la Torah soit l'ordre chronologique.
Non, c'est l'ordre chronologique de la révélation, non pas l'ordre chronologique événementiel, disons. Et vous pouvez rattacher ça, je rattache ça à deux enseignements corollaires. D'abord, à la fameuse première question de Rachid dans son commentaire, dès le début, ici, une question qui se trouve sept fois dans l'Émile de Rachid, avec des formulations un peu différentes. Les éditions que nous avons en plastique de Rachid le rattachent au Tanchuma Yashan sur Shirachiri, si je me souviens. Mais c'est à Marabi Yitzhak, c'est-à-dire, je schématise beaucoup. Si déjà, on doit mettre la Torah par écrit, alors il faut un ordre. Pourquoi l'ordre de la Torah mise par écrit commence au commencement? Ce qui est plein d'énormes comme humour de questions. On a un livre enfin normal. Il commence au commencement. Et qu'est-ce que demande la tradition? Mais pourquoi ça commence au commencement? Vous avez compris. Et le sens de la question, bon, en schématisant bien sûr, est le suivant. Si déjà il fallait mettre l'enseignement de la Torah par écrit, c'est parce que la Torah va se donner comme code des mitzvot, comme loi, comme code, comme loi des commandements. Et par conséquent, le seul ordre synchronisé que l'on peut admettre a priori, c'est l'ordre de révélation des mitzvot. Et par conséquent, pourquoi la Torah ne commence pas par la première mitzvah qui a été révélée à Israël? Bon, ce qui implique une question métaphysique beaucoup plus fondamentale, historiosophique d'ailleurs. En réalité, le véritable commencement de l'histoire du monde, c'est la sortie d'Égypte, c'est pas la création. Vous voyez ça un peu avec les thèmes du Shabbat. Nous avons les deux motivations. Zéchir le Maaseh Bereshit et Zéchir le Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, tout se passe comme si, bon là, on est obligé de paraphraser pour aller vite, mais tout se passe comme si, avant la sortie d'Égypte, c'est la préhistoire partout. C'est-à-dire, essayez une fois dans vos études de juxtaposer le texte du Maaseh Bereshit, ce que fait d'ailleurs le Midrash Rabbah dans un petit paragraphe du premier chapitre, Midrash Rabbah. Le texte du Maaseh Bereshit et le texte de la sortie d'Égypte. Et juxtaposer ces deux textes, et vous voyez comment l'un éclaire l'autre. c'est-à-dire la structure des processus de la sortie d'Égypte, est inscrite déjà dans la structure des processus des six jours. Qui m'avait posé hier soir la question des six jours et des neuf mois. Et c'est une méthode qu'a employée le Midrash Rabbah. Je vous donne simplement une indication hermétique en passant, pour pas être trop clair. Alors il faut être un peu obscur. C'est ce verset énigmatique qui gagne Hachem qui est l'Eretz Yisrael. Vous voyez la relation. Ça ne veut pas dire que le paradis est établi. Mais il y a là évidemment une analogie. Ça c'est ceux qui ne voulaient pas entrer en Israël, qui disaient que le paradis est établi. Bien, alors en tout cas, on est allé très loin. Je voulais vous relier à un autre enseignement du Gaon de Vilna sur un enseignement du Zohar qui dit « Akol talouï bamazal, afilou sefer Torah shebehechal ». Bon, je traduis d'abord, mais on n'approfondira pas dans son sens de Kabbalah, dans le pshat même. Zohar dit « Tout est soumis au mazal, mazé mazal, au déterminé. Tout est soumis au déterminisme, même à Filou, même le Sefer Torah qu'il y a dans le Hechal, qu'il y a dans son arche. L'homme de Vina, alors c'est explosif, qu'est-ce que ça veut dire? Même la Torah est soumise au déterminisme. Alors, vous avez compris la réponse du Zohar. Un mot, il a commencé par un mot, Sefer. C'est-à-dire que c'est le livre qui est soumis au déterminisme, pas la Torah qu'il y a. Vous voyez la différence de... Bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce qu'on a vu déjà, on peut en enchaîner. Alors, vous prenez le texte, c'est au paragraphe 7. Alors, nous allons encore avoir un premier enseignement qui est celui de Rabbi Shimaï. Dans ce paragraphe, un premier enseignement du paragraphe, celui de Rabbi Shimaï, et où il y a un supposé aussi de dialogue avec les sadducéens. Mais c'est quelques lignes plus loin, dans le deuxième enseignement que nous avons aujourd'hui, que le dialogue réel va commencer, enfin la controverse. Enfin, je m'explique du point de vue de la méthode. On va nous donner une autre proposition d'un enseignement qui tend à mettre en évidence le fait qu'inverser parlant d'autre chose implique évidemment triadamétique, le principe de la résurrection de l'homme. Et donc, ce que nous allons essayer de restituer, c'est la raison pour laquelle les sadducéens refuseraient aussi cette deuxième proposition. La première, celle que nous avons vue hier, je crois, est maintenant claire pour tout le monde. Qu'on Israël, Yeshlaem, Chélek, Laolam Abba, en tant que quoi? Tout Israël, à part au monde à venir, en tant que quoi? Première réponse de Rabbi Yochanan, en tant que Kohen. Si on a compris que le sens ultime de la destinée de l'homme comme créature, c'est d'être Kohen, alors il y a un sens à la destinée humaine, et s'il y a un sens à la destinée humaine, il ne peut pas ne pas y avoir résurrection des morts. Admettez-le au moins pour cet être exceptionnel qui est Aaron à Kohen. Pourquoi le Sadducéen refuse? Pas parce qu'il n'est pas capable d'admettre qu'il y ait des êtres d'exception, et donc la suite du raisonnement, et s'il y a un être d'exception, on ne pourra pas admettre que leur mort biologique, c'est l'arrêt de leur histoire. C'est pas comme vous disiez, je ne me souviens plus si c'est chez Ernest Lavis ou Marie Elisa, dans mes livres d'histoire du secondaire français, les grognards de l'Empire qui disaient, on va dire, Napoléon est mort. Napoléon ne peut pas mourir. Oui. Tout le monde peut mourir, mais pas Napoléon. Napoléon est immortel. Vous vous rappelez de cela? Et un peu dans ce genre-là. Une conviction qui vient que il y a en tout cas un être exceptionnel et pour qui la loi apparemment universelle biologique, de la mort biologique, ne peut pas jouer. Il serait capable d'admettre une expérience de cet ordre, à condition qu'elle soit motivée. Mais dans la conception du monde, et donc d'Israël, Israël n'est pas Kohen, parce que la Torah n'a pas de sens religieux. Vous voyez à peu près le... C'est-à-dire que leur religion était une religion du non-salut. C'est pas cela qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est la dignité de l'être pensant, vivant en société, et il faut vivre noblement. La seule noblesse possible, c'est de vivre selon la loi de vérité qu'est la Torah, mais pour la société terrestre. Il n'y a pas autre chose. C'était ça, la religion sadducéenne. Pardon ? Et je veux dire qu'ils refusent l'identité Kohen. Elle n'est pas exceptionnelle pour eux.
Comment
C'était la proposition de Rabbi Yonah.
Quand vous dites à part, est-ce que ça veut dire aurait droit, ou bien sera présent? Parce que sinon, j'entends la même objection que auparavant, on dit que seuls les sadiques ont droit au monde à venir.
Si vous permettez, est-ce que vous étiez là au premier cours? Oui, c'est ce que nous avons dit au premier cours.
Oui, alors, bon, alors quand on dit à part, il faut bien rappeler qu'à ce moment-là, ça veut dire verra, pas participera.
Et quelle différence vous faites entre verra et participera?
Comme nous avons dit, nous verrons qu'il y a un jugement et après ils disparaissent.
Non, là nous parlons de ceux qui sont exclus de ce tout Israël. Oh là là, alors je vais trop vite dans ce que nous étudions. Là, vous me désorientez, parce que, écoutez, je reprends la Michelin fondamentale. Première formule. Kol Israël, reprenez la première page. Kol Israël, Yeshlaem, Frédéric, la Olamaba. Un point. Première proposition. Tout Israël a part au Olamaba. Et nous en avons parlé très longuement. C'est dans le point d'insertion, ce Frédéric, cette part, est le point d'insertion de l'identité individuelle dans l'identité collective. En tant que tout Israël, Amer Kulam, Tzadiké. En tant que tout Israël, l'identité collective d'Israël est appelée Tzadik. C'est clair? Bon, je reviendrai peut-être un peu pour éclairer cela tout à l'heure autrement, mais. Et là, nous commençons à étudier la suite de la Mishnah. Et voici ce qui ne rend pas de part au monde de l'œil. Dans le deuxième cours, nous avons vu qu'il y avait un décalage de formule entre cette formule de la Mishnah, et l'explication de la Gemara, et là, nous avons parlé de ceux qui seront exclus, les Rechaïm. Ceux-là verront, mais n'auront pas de suite. Mais je vous avais dit abondamment que la Gemara travaille pendant des pages entières pour récupérer tout le monde. Ça, c'est un autre niveau. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Donc, ceux desquels on pourra dire ils verront, mais ils n'auront pas de suite, ils n'auront pas de Chélek, c'est le Rechaïm du premier psaume. Vous vous rappelez? Alken, le Yakumu Rechaïm Bamishma. Et est-ce que c'est plus clair?
Oui, c'est pas plus.
Mais alors, quelle est votre question? C'est que je n'ai pas compris votre question.
Bon, l'appartenance au peuple juif, c'est la même chose que l'appartenance à la tribu de l'Église.
Ah, j'ai pas dit ça. Ah, attends, je t'explique, je commence à comprendre. Dans le principe, oui. Puisque tout Israël était destiné à être plus que tribu de l'Église. Quand même. Rappelez-vous de la formule de l'Exode. Lorsque Moïse donne le message de la raison de la sortie de Dieu. « Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh » C'est-à-dire, Moïse est donc chargé d'un message. Vous êtes né à l'histoire, vous êtes sorti d'Égypte, avec une expérience qui vous permettra de guider l'humanité, alors vous serez pour moi, mamlechet kohanim, un royaume de kohanim, je ne peux pas traduire prêtre, et ve'goy kadosh est une nation sainte. Et c'est là qu'il y a eu toute cette discussion avec Moïse, mais on n'était pas au courant. Alors on attendait simplement d'être délivré de l'exil et de rentrer chez nous. Et voilà que tu nous dis, vous rentrez chez vous, mais pour être les guides de l'humanité. On n'était pas au courant. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène Nouveau Testament? Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, je vais vous dire trop rapidement. Les Hébreux, à ce moment de la sortie d'Égypte, sauf la tribu de Lévi qui était dans le couple, si l'on dit, dans le secret, s'attendait à un processus purement historique. Nous avons une tradition de nos pères que, oui, nous sommes en exil, mais que viendra la délivrance. Ils n'en savaient pas plus, ils faisaient semblant de n'en savoir pas plus. Et puis voilà que Moïse, qui les a délivrés de cet exil, leur dit, oui, mais il y a un programme. Voilà l'objectif. Et vous serez pour moi Alors, tout Israël dit à Moïse, s'il y a changement de programme, que Dieu lui-même vienne nous le dire. On ne veut pas par un envoyé. C'est trop important pour que ça passe par des intermédiaires. Et c'est pourquoi il y a eu la théophanie du Sinaï. C'est bien clair. Donc, dans le principe, tout Israël est destiné à être Cohen. Mais, précisément, alors là c'est très bien votre question. Ce raisonnement de Rabbi Yochanan, de donner le Cohen Gadol à Aaron en modèle, est précisément refusé par les Sadducéens, parce que les Sadducéens refusent cette mission d'Israël et cette vocation d'Israël. Parce que pour eux, il n'y a pas de sens religieux à l'histoire.
Est-ce que c'est clair? Bon. Maintenant, donc ça veut, pour nous, ça va être intégré. Je veux dire, pour la tradition parisienne, ça va être intégré. Bien entendu que si nous cherchons un point d'illustration en tant que quoi, nous avons, nous les hommes, c'est-à-dire les justes des nations de tout Israël dans le principe, c'est bien clair, n'oubliez pas l'autre Mishnah. Ce privilège, eh bien, c'est parce que nous apprenons de la vocation humaine du Kohen qu'il y a un sens à la destinée à Dieu. Donc, ceci est refusé dans le principe par la coutume sadducéenne, parce que pour elle, la Torah n'a rien à voir avec un salut religieux. C'est une constitution mendelssohnienne. Il y a d'autres hérésies plus graves. Il y a les hérésies confessionnelles de la Torah, de faire de la Torah une religion confessionnelle. Qui, d'une certaine manière, d'ailleurs, rejoint l'hérésie sadducéenne. Parce que confessionnel, ça ne devient finalement que sociologie. Mais il y a encore d'autres, il y a des hérésies mystiques possibles. Mais vous voyez donc que ce n'est pas simple d'aborder des problèmes. Mais pour le moment, nous sommes sur une focalisation bien précise. Nous avons comme interlocuteur des hommes pour qui la Torah, c'est ce qu'il faudrait découvrir. Peut-être. Encore une fois, que l'illustration la plus claire dans le temps contemporain, c'est pas pour rien que M. Nair l'a choisi lui aussi, c'est précisément Madame Sophie. Et tout ce qu'il en est sorti. C'est-à-dire la décomposition du judaïsme occidental. Enfin, de l'identité juive du judaïsme occidental. Et simplement, je reviens sur un point des premiers cours qui peut-être explique pourquoi la question devait encore être posée, c'est ceci. Ce présupposé, peut-être j'en ai pas suffisamment parlé. Comment un verset peut-il dire que tout Israël, c'est des tzadikim? Vous allez revenir sur ce point-là. Donc le verset, qu'est-ce que la Mishnah? Ve'amer kulam tzadikim le'olam yishua aret. Je vais pas parler de la fin du verset. Le'olam yishua aret. Aret, ça veut dire Eret Israël. Ça veut dire que finalement, toute la question de Triat Hametim est reliée avec la Géoula proprement historique. Vous comprenez ce que je veux dire? De ça, nous n'aurons pas le temps de parler. On va se borner pour cette fois la première partie du verset. Alors, j'ai entendu une fois, et je ne sais pas quel auteur français a dit cela, en parlant du peuple allemand, que dans le peuple allemand, il est possible que ce soit Yankelevitch, mais je ne crois pas. Pardon? Ah, c'est clair. Donc, tu vois de quoi je vous parle. Il dit ceci qu'il y a une caractéristique dans le peuple allemand. C'est que, à l'échelle individuelle, les Allemands peuvent être des grands hommes, par exemple Goethe, mais qu'à l'échelle collective, c'est la catastrophe. Donc nous citons Goethe. Eh bien, corollairement, on peut dire, vraiment, je marche sur des œufs, on peut dire que pour le peuple juif, c'est la même. Ça peut être inverse. C'est-à-dire, collectivement, c'est Anak Sheba Anak. Collectivement, c'est un peuple impossible à définir, le mystère d'Israël. Mais à l'échelle individuelle, n'importe quel juif peut être un rachat d'amour. Vous comprenez ce que je dis? Bon, ça va un peu vous consoler, que nous consoler, que la comparaison, en fin de compte, se fera dans l'histoire des textes, se fera d'Arca par rapport au peuple allemand. Mais on pourrait le faire aussi par rapport au peuple espagnol, par rapport au peuple russe, par rapport, etc. C'est qu'à l'échelle individuelle, il y a des chassidés au mot d'Aolam. Ils peuvent être de très grandes statures. Mais à l'échelle collective, c'est la catastrophe. Nous en sommes les témoins. Vous comprenez ce que je dis? Eh bien, donc, pour le peuple juif, on dira que ça peut être corollairement l'inverse. Israël, dans son identité collective, vers Amerkulam, Tzadikim. Notre insertion à l'identité collective d'Israël, c'est ce chélek indestructible et absolument kadosh dont nous parlons en nous adressant à nous-mêmes, rappelez-vous les derniers séminaires, dans la quatrième lecture du Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous vous rappelez de ça? C'est ce chélek indestructible. Et donc, j'ai parlé assez rapidement au premier coup. Mais il est bien évident qu'à l'échelle individuelle, en tant qu'individu, chaque individu dans sa destinée individuelle terrestre peut être la pire des crapules. Mais le point d'identité par lequel il s'insère à l'identité collective, s'il s'insère, c'est ça son chélek, la Olam Haba. Bon, je pense que c'est bien clair. la Gemara va très loin, c'est le prix de que je vous cite le soir. Et il faut lire ça très attentivement, en particulier dans le titre catastrophique du prix de mais aussi dans d'autres. La Gemara va très loin. Et il dit que, en fin de compte, si vraiment un individu fait partie d'Israël, alors son caractère de rachat, s'il est rachat à l'échelle individuelle, en fin de compte, il faut savoir ce n'est qu'une apparence. Et qu'au jugement dernier, tout s'expliquera. Il va jusque là. Et en particulier, il dit ce là, qui dit ceci, « Afilou, rekanim shelo Israël, meleim mitzvot karimun. » C'est-à-dire même les plus vides d'Israël, rekam, apparemment de ce chélé, plus vides, les plus vides d'Israël sont pleins de mitzvot comme une grenade. D'ailleurs, la grenade du grand prêtre, je ne sais pas si vous voyez, par amont de Bérimon, par amont de. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous citerai l'enseignement du Rav Kook. Il y a une différence entre la grenade et les autres fruits. Dans les autres fruits, il y a le fruit et le grain. Le garaïm, c'est pas le grain, le noyau. Okay, peut-être que le grain est garaïm, mais non. Il y a le fruit et il y a le noyau. Tandis que pour la grenade, le fruit, c'est les noyaux. C'est ce qu'on appelle les grains de la grenade. Donc, ça veut dire que ce n'est pas au niveau des actes que c'est évalué, au niveau de l'être. C'est clair. Donc, afilou, rekanim chez Israël, même ceux qui apparemment sont complètement vides des mérites d'actes, sont en réalité pleins de mérites, comme la grenade de ses grains, mais de mérites d'être. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois que c'est important quand même. De toutes façons, même si on fait un peu moins que le beaucoup que j'avais prévu, on a encore un cours demain matin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je préfère parce que comme ça on est sûr que c'est plus clair. Et en général, il y a toujours un petit rythme qui arrive. Bon, ben, comme dirait mon collègue, si vous ne posez pas la première question, parce qu'elle est difficile à formuler, posez-vous la deuxième. Donc, alors nous abordons Rabbi Shimon. Deuxième proposition, je vais vous donner le plan d'ailleurs, d'après le verset que j'ai cité tout à l'heure grâce à votre question. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Royauté de prêtre, je dis le prêtre, et nation sainte. Rabbi Yochanan a proposé par Mamlechet Kohanim. Les Sadducéens refusent. Alors il va maintenant proposer par Goy Kadosh, nation sainte. Mais entendez, on est pas. Egoï, la nation, et Kadosh, que je traduis par la sainte. Trois lignes que nous allons voir maintenant. Et vous ouvrez le chumash au verset 4 du chapitre 6 de l'Exode. Shemot Vardal. Page 13 de Shemot dans le chumash, pour ceux qui le suivent. Tania, on enseigne. Et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon a dit, Minaïn litriat ameti minatora, avec la même formule que Rabbi Yochanan. Minaïn litriat ameti minatora. Donc, comme nous avons traduit hier, d'où savons-nous du texte, de quel texte savons-nous Minaïn, que la triat ameti procède de la Torah, dans les deux lectures, qu'elle est indiquée dans la Torah et que la Torah y mène, en tant que quoi? Alors, je rappelle, paragraphe précédent, Rabbi Yochanan en tant que Mamlechet Kohanim, notre paragraphe en tant que Goy Kadosh. Et vous allez voir quel est le verset. Chez Nehema, d'après ce qui est dit, dans le verset 4 du chapitre 6 de l'Exode, Veram Akimoti et Beriti Itam, il s'agit des patriarches, des avotes, et même, je vais accomplir, réaliser Akimoti et mon alliance avec eux, avec les patriarches. La tête la haine pour leur donner est Eretz Knaan, le pays de Canaan. Reprenons le verset dans son nom. Et vous comprendrez tout de suite le raisonnement. Dans le texte de la Torah, Vegam Akimoti et Beriti Itam, la tête la haine est Eretz Knaan, et Eretz Mehuehem, Asher Garuba. Et même, ici le texte parle des patriarches, Vaera et Abraham, Isaac et Yaakov et Shaddai. Et au moment de la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse, le temps est arrivé que je réalise mon alliance avec les pères d'Israël, avec les Avot, Abraham, Isaac et Jacob,
pour leur donner la terre que je leur ai promise. Je paraphrase. Mais
c'est le moment.